Mesdames, chers amis, votre cher père directeur m'a demandé de venir passer quelques mots dans ces circonstances graves, importantes que nous traversons pour notre fraternité pour l'Église, car enfin nous sommes je le pense et j'en suis bien persuadé, et vous en êtes bien persuadé vous-même aussi, je l'espère, un rameau puissant de la Sainte Église catholique et romaine. Nous ne voudrions pas travailler en dehors de ce lien. Et je peux dire que l'histoire de la fraternité a été marquée comme ça à certaines époques, vous voyez, par des moments particuliers, difficiles, où il fallait prendre des décisions graves. Et alors, eh bien, ça a été l'occasion pour moi de parler d'une manière plus particulière aux séminaristes pour les encourager, les fortifier. Et dites-vous bien que ce combat ne commence pas aujourd'hui, que les difficultés que nous trouvons aujourd'hui, dans lesquelles nous nous trouvons, ne sont pas nouvelles. Ce serait bien mal comprendre notre histoire et notre combat que de croire que nous nous trouvons tout à coup devant une situation extraordinaire et tout à fait nouvelle. C'est pas vrai, hein? C'est absolument faux. Cette situation, on peut dire, a commencé déjà depuis le Concile. Il faudrait refaire l'histoire du Concile pour montrer que dans le Concile, il y a quand même une résistance. L'invasion des idées libérales et modernistes dans le Concile n'a pas été sans provoquer une réaction. Heureusement, il y a tout de même eu parmi les pères du Concile un certain groupe de pères qui ont dit « ça va pas, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas admettre ces principes de 89, on ne peut pas admettre cette collégialité, on ne peut pas admettre cet œcuménisme, on ne peut pas admettre cette liberté religieuse. » Alors, bien, ils ont combattu. C'était environ 250. Malheureusement, en face d'eux, il y avait aussi environ 250 pères qui étaient réunis pour faire triompher ces idées libérales. Et le drame, ça a été que les papes ont soutenu les libéraux plus que les conservateurs. Voilà tout le drame qui s'est passé au Concile Vatican II et que nous nous trouvons maintenant dominés par un pape et par une curie romaine et par des évêques qui ont des idées libérales, qui ont adopté les idées de 89. Tout simplement, on ne peut pas se cacher les choses comme elles sont ce qu'elles sont. Mais comment le bon Dieu a-t-il pu permettre ça? Oh, écoutez, demandez-lui. Moi, je ne suis pas le bon Dieu. Bon, je ne sais pas. Il sait tout, il connaît tout, il est tout puissant. Puisque le bon Dieu permet cela, il ne le veut pas parce qu'il ne peut pas vouloir le mal, mais s'il le permet, c'est qu'il a sans doute un plan que nous ne connaissons pas parfaitement, mais que nous connaissons tout de même un peu dans ses grandes lignes. Nous savons très bien par l'Apocalypse et par toute l'histoire de l'Église que cette histoire de l'Église est un combat gigantesque entre Satan et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons bien, il y a les deux cités qui luttent l'une contre l'autre. Alors, bon, à travers cette histoire, nous sommes maintenant à l'époque où il semble que Satan triomphe. Bon, c'est bien ce qui était prévu aussi dans les lettres de Saint Paul, dans l'Apocalypse, dans les apparitions que la Vierge Marie a faites ces derniers temps qui ont été approuvées par l'Église, la Salette en particulier, Fatima, n'est-ce pas, des temps terribles ont été prévus. Les papes eux-mêmes ont prévu dans, et prédit dans leurs encycliques, dans tous les derniers papes, enfin disons, si on ne les écoute pas, si on ne lutte pas contre les erreurs du modernisme et du libéralisme, eh bien des temps terribles vont arriver et l'Église risque bien de presque de disparaître. Enfin, ce sont des termes même de ces papes. Donc, nous nous trouvons dans cette période-là, dans cette période invraisemblable de quasi-disparition de l'Église et disparition de la foi dans l'Église. Alors, on a lutté au Concile. Après le Concile, les libéraux ayant pris les places, ben, ils font ce que les socialistes font quand ils arrivent au pouvoir. Ils en vont promener les gens de la droite. Ceux qu'on appelle de la droite. Bon, ils ont les ministères, mais ils prennent la place dans les ministères, on prend la place dans toutes les organisations de l'État, on chasse tous les braves gens et on y met les gens du socialisme. C'est normal. Ah oui, ben, à Rome, ils ont fait pareil. Ils ont pris la place, ils ont chassé tout le monde. Ils ont chassé tous les conservateurs. Ils ont mis leurs hommes en place. Les évêques les ont chassés aussi, ils leur ont fait comprendre qu'il fallait donner leur démission. Ils ont donné leur démission. Les 250 qui avaient résisté pendant le Concile, beaucoup ont donné leur démission, beaucoup se sont retirés d'eux-mêmes, et les quelques-uns qui sont restés, bien, il faut bien le dire, parce que il y a eu Mgr Castromayer et moi-même, à résister publiquement. C'est invraisemblable, c'est comme ça, qu'est-ce que j'y fasse, moi? Pas rien. C'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de Mgr Castromayer non plus, mais c'est comme ça. Le bon Dieu a permis que nous nous trouvions dans des situations qui ont fait que nous avons résisté publiquement. Et puis les autres, eh bien, malheureusement, il y en a, comme je citais l'exemple de Mgr Adam, l'évêque de Sion, bien, qui a quitté le Concile pendant un an, qui n'a pas voulu assister aux séances du Concile, tellement il était excédé par la situation du Concile, où on voyait les idées libérales prendre la place de la foi catholique. Alors il a dit, moi je ne reste plus, je m'en vais. Et je le connaissais bien, j'ai dit, mais il ne faut pas partir, il faut lutter. C'est pas en partant que vous allez faire gagner la bonne cause, voyons, il faut rester. Oh non, je ne peux plus supporter ça, j'en deviens malade. Il a donc quitté pendant un an. Puis après, il revient dans son diocèse et c'est lui qui instaure toutes les réformes du Concile Vatican II. Ah oui, comme ça. Invraisemblable. Le cardinal Siri, la même chose. Cardinal conservateur, grand cardinal conservateur. Ben, c'est lui qui a pratiquement instauré toutes les réformes dans son diocèse. Vous me direz, comment ça se fait? Moi, j'en sais rien, je ne sais pas plus que vous, c'est comme ça, les faits sont comme ça. Alors, est-ce que c'est une raison pour nous aussi de laisser tomber les bras et puis de dire, ben alors, il n'y a rien à faire, quoi. On n'a qu'à tout laisser aller. Ben non, il ne faut pas laisser aller, au contraire, il faut lutter. Alors, on a lutté, et le problème est toujours le même, il faut faire revenir la foi. La foi catholique, les principes catholiques, là où sont les principes libéraux, là où sont les principes modernistes, il faut faire revenir les principes catholiques. Voilà. Les principes libéraux sont contre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Sont pour la religion universelle, sont pour la liberté de toutes les religions, l'égalité de toutes les religions, et donc pour la disparition de ce qu'est l'Église, car l'Église étant la seule vraie religion, par le fait même qu'on la met sur le pied des fausses religions, elle disparaît. Voilà. Elle n'est plus la seule vraie. Et si elle n'est plus la seule vraie, l'Église catholique disparaît. C'est ce que dit explicitement Léon XIII. Alors on a combattu. Combattu tout en gardant le lien un lien officiel avec Rome. Il ne s'agit pas de se séparer de Rome. Et vous savez bien que lorsqu'il y a eu la première visite, alors après, donc, quand le séminaire a été fondé, le séminaire a été reconnu par Rome, mais gardant les idées traditionnelles, gardant la foi catholique, et gardant la tradition catholique, particulièrement dans la liturgie, l'ancienne messe et les sacrements, et le catéchisme, et que sais-je, moi, et toutes les bonnes études du séminaire traditionnel, nous nous sommes trouvés, évidemment, ça devait arriver, il devait y avoir un conflit, c'est pas possible. Pas possible que nous continuions exactement dans la ligne conservatrice et traditionnelle, avec des chefs qui étaient tous modernistes et libéraux, et qui voulaient instaurer le modernisme et le libéralisme partout. Un conflit devait naître. Et le conflit est né. Et moi, il est arrivé. Alors, visite qui est favorable, mais conclusions qui sont défavorables. Et puis on nous a dit, ben maintenant, vous n'avez plus qu'à fermer votre séminaire. 6 mai 1975, je reçois une lettre de Monseigneur Mamie, vous devez fermer votre séminaire, vous devez renvoyer tous vos professeurs et renvoyer tous vos séminaristes chez eux. Qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-moi. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous autres? Ça va? Ah. Ouais, c'est facile de dire, ben, Monseigneur, qu'à se débrouiller. Ah, qu'à se débrouiller, c'est facile à dire, ça va. Alors, ben, moi je dis non, c'est pas possible. On ne peut pas abandonner le combat. On combat pour le règne de notre Seigneur, les autres combattent contre le règne de notre Seigneur. Ceux qui combattent contre le règne de notre Seigneur ne peuvent que vouloir notre mort, notre disparition. Eh ben non, on continue, tant pis. Alors bon, allez, pan, suspense. Suspense à Divinis, suspense au frappe. Alors c'est fini, Monseigneur Lefebvre, séparé de Rome, c'est fini, je sais pas. Alors, on a eu droit à entendre ça pendant, depuis 75 jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis 13 ans, dans les journaux, partout, quand je passe à droite, à gauche, donner les confirmations, faire une conférence, faire une bénédiction d'église, etc. Cet évêque suspens, cet évêque schismatique, cet évêque rebelle, cet évêque dissident, cet évêque... Bon. Alors, devant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, on abat les armes, et on met les armes bas, et puis on rentre dans le courant de Rome. Ben non, non. Alors, vous voyez, c'était le même combat. Ici, la réflexion qui est faite à propos justement des discussions qui avaient lieu déjà en 76, 77, parce que j'ai toujours gardé le lien avec Rome quand même, avec l'espoir de faire bousculer les idées modernistes et libérales de Rome et d'y implanter les idées de la tradition. Parce qu'il n'y a pas moyen l'Église catholique puisse continuer sans sa tradition, coupée de sa tradition, c'est pas possible ça. Monseigneur Lefebvre, à cette étape des discussions, constate que chaque camp reste sur ses positions. Ça, c'est en 77. Une solution de conflit par des entretiens doctrinaux semble impossible. Eh bien, on en est encore là maintenant. Exactement la même chose. Je pourrais répéter une chose. Une solution du conflit par des entretiens doctrinaux semble impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont libéraux et que nous, on est conservateurs. C'est tout. On ne s'entend pas. Il n'y a rien à faire. Ils sont pour la liberté religieuse. On est contre la liberté religieuse. Ils sont pour le modernisme. On est contre le modernisme. Ils sont pour la foi moderniste, une foi sentimentale. Une foi qui vient des profondeurs de la subconscience, comme dit le pape lui-même, il dit « ma foi vient des profondeurs de ma subconscience », il l'a écrit, ça a été écrit dans le livre de Frossard, là, sur le pape, et le pape répond ça, et le pape a examiné toutes les réponses, donc c'est bien sans penser, c'est sa foi, ça. On ne peut pas admettre ça. C'est contraire à la définition de la foi du serment antimoderniste. C'est pas possible. On ne peut pas admettre ça. Alors, la seule solution, c'eût été de renvoyer à une commission les discussions théoriques. Bon, c'est possible d'envoyer les discussions. Et d'avoir un modus vivendi pour nous, un modus vivendi pratique. C'est toujours ce qu'on a cherché pendant depuis 77, ça fait depuis 11 ans. Les 11 ans ont été des discussions. Ils ont toujours voulu nous obliger, n'est-ce pas, à signer une formule dogmatique, c'est une formule doctrinale par laquelle nous acceptions le concile, etc. Le pape vient, ce nouveau pape vient et parle de concile interprété à la lumière de la tradition. Bon, c'est encore ambigu. Alors, moi, je trouvais déjà la formule pas mal. J'ai dit, bon, si on peut sans même se reporter à la tradition, donc ça fait sauter la liberté religieuse puisqu'elle est contraire à la tradition. Mais ça, c'est pas, mais ils comprenaient pas ça comme ça. C'est pas dans leur esprit. Pour eux, il faut intégrer le Concile Vatican II dans la tradition. Et en définitive, dans l'esprit du cardinal Ratzinger, par exemple, Vatican II, c'est la tradition. C'est la tradition. C'est la tradition aujourd'hui, Vatican II. Vous voyez ? Alors, la tradition, c'est l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui. Alors, regardez pas le passé, n'allez pas tout le temps vous référer au passé. Pourquoi aller tout le temps dans le passé ? La tradition, elle est devant vous. C'est l'Église aujourd'hui. Voilà la tradition. Ça, c'est l'esprit évolutif de ces gens qui disent la vérité et changent avec les temps, avec le temps. La vérité s'adapte au temps. Le temps a une influence sur la vérité, sur la foi. Alors, il ne faut pas rechercher la foi qu'on professait il y a 100 ans ou 200 ans, ou il y a à plus forte raison, il y a 1000 ans. La foi, c'est ce qui se professe aujourd'hui dans l'Église. Voilà. Pas de référence maintenant au passé. L'Église porte en elle-même, en quelque sorte, ce passé, n'est-ce pas ? Et alors, si vous le dites ça, c'est fini. C'est pas possible. L'Église, justement, quand elle définit quelque chose, se rapporte toujours au passé, toujours, toujours, parce que le dépôt de la foi est terminé après la mort du dernier des apôtres. Le dépôt de la révélation et de la foi a été clos avec la mort du dernier des apôtres. Donc, ce que définit l'Église, elle ne définit que ce qui est contenu dans le dépôt de la foi qui existait, qui a été terminé après la mort du dernier des apôtres. Donc, elle se réfère toujours à ça. Toujours, toujours, toujours. Alors, c'est une erreur profonde, ça. Profonde de leur part, mais ça, c'est comme ça, ils sont comme ça. Alors, nous nous heurtons là, vraiment, à une théologie qui n'est pas la nôtre. Parce qu'elle n'est pas catholique. C'est pas parce qu'elle n'est pas la mienne, moi. C'est pas parce qu'elle n'est pas catholique. Et c'est pourquoi j'avais fait cette déclaration que vous connaissez, mais qui n'est peut-être pas mauvais de relire, elle n'est pas tellement longue. Parce que je trouve que c'est quand même un peu ce qui représente le combat, enfin, qu'il a fallu mener depuis le Concile et qu'il faut mener depuis 1974, date à laquelle j'ai écrit cette déclaration après la visite des deux Belges qui sont venus à Écône. N'est-ce pas, et qui avait dit des choses invraisemblables, qu'on savait pas, pouvait pas affirmer que notre Seigneur était ressuscité avec le même corps, n'est-ce pas, c'est pas une chose qu'on pouvait affirmer. Ensuite, ils m'ont dit à moi-même, je ne sais plus à quelle occasion, on est arrivé à parler du célibat sacerdotal, mais on dit, mais enfin, le célibat sacerdotal, Monseigneur, vous savez bien que ça ne va pas durer, c'est une affaire de quelques années encore, puis ça va être terminé, ça, c'est une chose qui ne peut pas durer. Enfin, je dis, quoi ? Vous venez de Rome, et vous dites ça ici, à l'école, que le célibat, ça va terminer ? Alors que le pape, à ce moment-là, était le pape Paul VI lui-même, c'est assez... Bon, contre le célibat, si vous voulez, mais alors il avait accordé des dispenses invraisemblables, n'est-ce pas, dans le monde entier, pour combien mariage de prêtres, on les compte plus. Puisqu'ils ont une association de 70 000 prêtres mariés, donc, énorme. Et beaucoup avec permission du Saint-Siège. Alors, et puis d'autres choses encore qu'ils ont dites, je ne me souviens plus très bien, enfin des choses absolument ahurissantes. Ah, je dis non. Alors c'est Rome qui vient avec des idées comme celle-là. Nous visiter, nous, à Écône, qui gardons la foi catholique, eh bien non, ça c'est pas permis. Alors je fais cette déclaration. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Toutes ces réformes, en effet, ont contribué et contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements, à la disparition de la vie religieuse, à un enseignement naturaliste et théilhardien dans les universités et les séminaires, la catéchèse, enseignement issu du libéralisme et du protestantisme, condamné maintes fois par le magistère solennel de l'Église. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église depuis 19 siècles. Si l'arrivée des saints Paul que nous-mêmes ou un ange venu du ciel vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. N'est-ce pas ce que nous répète le Saint-Père aujourd'hui? Et si une certaine contradiction se manifestait dans ses paroles et ses actes, ainsi que dans les actes dédicastères, alors nous choisissons ce qui a toujours été enseigné et nous faisons la sourde oreille aux nouveautés destructrices de l'Église. On ne peut modifier profondément la lex orandi sans modifier la lex credendi. À messe nouvelle correspond catéchisme nouveau, sacerdoce nouveau, séminaire nouveau, université nouvelle, Église charismatique, pentecôtiste, toutes choses opposées à l'orthodoxie et au magistère de toujours. Cette réforme étant issue du libéralisme, du modernisme, est tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie, même si tous ces actes ne sont point formellement hérétiques. Il est donc impossible à tout catholique conscient et fidèle d'adopter cette réforme et de s'y soumettre de quelque manière que ce soit. La seule attitude de fidélité à l'Église et à la doctrine catholique pour notre salut est le refus catégorique d'acceptation de la réforme. C'est pourquoi, sans aucune rébellion, sans aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère de toujours, persuadés que nous pouvons rendre un service plus grand à la Sainte Église catholique, au souverain pontif et aux générations futures. C'est pourquoi nous nous entendons fermement à tout ce qui a été cru et pratiqué dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église, par l'Église de toujours, et codifié dans les livres parus avant l'influence moderniste du Concile, en attendant que la vraie lumière de la tradition dissipe les ténèbres qui obscurcissent le ciel de la Rome éternelle. Ce faisant, avec la grâce de Dieu et le secours de la Vierge Marie de Saint-Joseph de Saint-Pédis, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre, et d'être les fidèles dispensateurs des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Amen. Eh bien, en attendant que la vraie lumière de la tradition dissipe les ténèbres qui obscurcissent le ciel de la Rome éternelle, c'est ce que nous faisons encore. Nous attendons. Tant que la tradition n'aura pas remplacé le modernisme, nous ne pouvons pas, c'est impossible de nous entendre. Alors nous avons essayé, nous avons fait un essai loyal. Donc j'ai, devant la nécessité de continuer ce que nous faisons pour le bien de l'Église, pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour la continuation de l'Église, et bien, nous avons besoin des évêques. Il n'y a rien à faire. Nous ne pouvons pas continuer courageusement, fortement et bien organisé et dans la protection de la foi et avec tous les moyens dont nous avons besoin, c'est-à-dire pour faire des prêtres, n'est-ce pas, qui est l'œuvre essentielle de la fraternité. Nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas d'évêques. Alors, le 29 juin dernier, j'ai annoncé, bien, devant l'impossibilité de pouvoir trouver une solution avec Rome qui nous donne une satisfaction au sujet de la consécration des évêques, j'ai l'intention de consacrer des évêques. Alors, c'est alors que Rome, un peu émue, a ouvert un peu les portes et a dit, mais on va s'entendre, on va s'entendre, on va s'entendre. On va s'entendre. Alors, on a renoué les conversations avec une fréquence plus grande. On a dit, bon, vous pourrez garder la liturgie du pape Jean XXIII, vous pourrez garder vos séminaires avec le charisme spécial qu'ils ont. Vous pourrez aussi avoir un visiteur. C'était une petite ouverture. On a donc essayé de voir si vraiment il y avait moyen. Mais en prenant ce principe dans les colloques, nous accepterons une solution à la condition formelle et absolument radicale que nous soyons protégés absolument de toute influence moderniste et libérale. Ça, nous n'en voulons à aucun prix. À aucun prix. Donc, il faut que nous soyons protégés. Il ne s'agit pas de rentrer dans Rome et puis de dire à ces autorités romaines qui sont modernistes et libérales, de leur dire, les voilà, ben nous sommes dans vos mains, nous sommes à votre disposition, faites de nous ce que vous voulez. Il s'agit pas. On a lutté pendant 20 ans, 25 ans, contre ces idées, puis d'un coup on se met dans les mains de ces modernistes, puis on dit, nous voilà, ben on est à votre disposition. C'est pas possible, ça. C'est fini de toute notre action et de notre foi. C'est mettre notre foi à leur disposition. Alors il fallait absolument avoir cela. Alors, nous avons donc eu ces colloques, discussion. À ce moment-là, il semblait qu'ils ne voulaient plus nous demander quelque chose au sujet de la doctrine. Ils ne voulaient plus rien nous demander au sujet de la doctrine. Mais au moment des colloques, eh bien, ils ont quand même remis devant nous une feuille qui concernait la doctrine. Bon, elle était un peu plus facile à signer parce qu'il y avait ce fameux numéro 3. Il y avait 5 paragraphes donc dans le numéro 3 qui disait « Sur certains points, nous devons constater de certains points qui concernent le concile, la liturgie et le droit canon, nous devons constater qu'il y a des points qui sont difficilement conciliables avec la tradition. » C'était peu dire. Nous étions bien bons. Nous aurions dû dire qu'ils sont contraires à la tradition. Bon, enfin, eux ont lâché ça, nous on a dit peu. Mais pour nous, bien sûr, c'est contraire à la tradition. Alors, étant donné ce point qui, donc, nous réservait, je dirais, le droit de critiquer et de rejeter même ces points, s'ils ne sont pas compatibles avec la tradition, chose qu'ils n'avaient jamais acceptée jusqu'à présent, parce qu'ils avaient toujours dit, ah non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des choses contraires ou inconciliables avec la tradition dans le concile et dans le droit canon. Et dans ça, ce n'est pas possible. Pas possible. Alors, vous opposez à Rome, ça, ce n'est pas possible. Là, il l'avait accepté. C'est pourquoi nous avons accepté aussi les formules qui sont venues après, la numéro 4 au sujet de la liturgie et la 5 sur le droit canon, que nous aurions formulées autrement si on les avait formulées nous-mêmes, mais enfin, ce sont eux qui les ont formulées. Alors, je les ai ici. Bon, vous allez voir. Numéro 4, nous déclarons en outre connaître la validité du sacrifice de la messe et des sacrements célébrés avec l'intention de faire ce que fait l'Église et selon les rites indiqués dans les éditions typiques du missel romain et des rituels et des sacrements promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. Mais donc, la validité faite avec l'intention de faire ce que fait l'Église, parce que de plus en plus, ils n'ont plus l'intention de faire ce que fait l'Église. Et puis ensuite, selon les rites qui sont sortis des presses romaines, n'est-ce pas, et non pas les traductions. Or, maintenant, il n'y a plus que des traductions, il n'y a plus de messe en latin. Alors, ces traductions, elles valent ce qu'elles valent. Et puis, la validité, c'est là que c'est un peu un mot piège, je veux dire un petit peu, parce que par rapport à beaucoup de gens qui ne sont pas, évidemment, qui n'ont pas l'habitude des termes théologique, enfin, n'est-ce pas, canonique. Alors quoi? Validité, ça veut dire valable. Que c'est reconnaître valable Le sacrifice de la messe, ce n'est pas vrai. C'est pas ça. La validité, c'est-à-dire la présence, bon, l'efficacité, si vous voulez, de la grâce qui se trouve dans le sacrement, et qui donc, l'efficacité du rite. Mais ça peut très bien être sacrilège. Une messe valide peut très bien être une messe sacrilège. Elle a été pour nous, justement, nous disons, et pourquoi nous rejetons cette messe malgré sa validité? Parce que nous estimons que, ayant été faite avec des protestants, ce changement de rite ayant été fait par des protestants, il y a une influence œcuméniste qui a joué dans cette réforme de la messe, si bien que la messe est de saveur protestante, une saveur protestante, et que petit à petit, la notion du sacrifice a disparu de beaucoup, et puis la notion du sacrifice propitiatoire, particulièrement, a beaucoup diminué dans la messe. Alors, ces changements qui ont eu lieu dans la messe rendent cette messe dangereuse, empoisonnée. Et c'est pourquoi nous refusons absolument d'encourager les fidèles à aller à cette messe, que nous les détournons de cette messe. Or, ils voulaient mettre à cet endroit-là, nous nous engageons à ne pas détourner les fidèles des rites nouveaux, etc. Ah, ça, non, pas possible. On les veut pas pour nous. On les veut pas pour nos fidèles non plus. On va pas aller encourager les fidèles à y aller, puis nous dire, ah, pour nous c'est mauvais, mais pour vous, ben, tant pis pour vous, allez-y. Bon, c'est pas possible, ça. Alors bon, ils ont supprimé ça, mais ils voulaient le mettre dans le texte. Alors, il faut bien faire attention, ça, parce que les gens, quand on leur dit, eh ben, on estime que la messe est quand même, peut-être quand même valide. Alors, ils croient qu'elle est valable. C'est pas la même chose, valide et valable, n'est-ce pas? Non, elle peut être valide, mais mauvaise. C'est pourquoi nous détournons les fidèles de ces messes, qui, petit à petit, détruisent la foi du célébrant et des fidèles. C'est clair, ça, c'est absolument certain. Certain. Alors, bon, nous avons signé ça. Enfin, nous promettons de respecter la discipline commune de l'Église et les lois ecclésiastiques, spécialement celles contenues dans le droit canonique promulgué par le pape Jean-Paul II, restant sauf la discipline spéciale concédée à la fraternité par une loi particulière. Mais évidemment, on a signé ça encore. On voulait mettre avant, on a demandé si on pouvait pas mettre, compte tenu de ce qui a été dit au numéro 3, nous promettons, etc., pour bien montrer que nous faisons des réserves. Qu'il y a des réserves dans ce numéro. Nous le disons comme ça, mais avec des réserves. Et ces réserves, alors ils m'ont dit, c'est pas la peine, ça y est, au numéro 3. On n'est pas répété encore. Mais ça aurait été plus clair. Ah, on a discuté comme ça, c'est épouvantable. Or ça, cette page-là, normalement, ils n'auraient pas dû nous la présenter. Mais ils reviennent toujours, ils reviennent, n'est-ce pas? Enfin, telle qu'elle est, je crois qu'on pouvait, la signer à la rigueur, n'est-ce pas? Mais ces discussions qui ont eu lieu, justement, et toutes les discussions qui ont eu lieu au cours du colloque, et toutes les remarques qui ont été faites, nous montrent que leurs idées à eux, c'est d'arriver à avoir l'autorité sur nous pour nous amener à accepter le concile et les réformes conciliaires. Ils n'ont rien changé, ils n'ont pas changé d'un iota depuis le concile, au contraire. Ils sont d'autant plus forts qu'ils sont maintenant, déjà, ils ont une certaine tradition à Rome, etc., ils sont d'autant plus forts. Alors ils veulent absolument nous rallier, n'est-ce pas, au concile. Vous avez vu, ils nous ont demandé de faire des objections sur les libertés religieuses. Un exemple. On a fait 50 pages d'objection sur la liberté religieuse. Ils nous ont répondu par une trentaine de pages pour nous contredire nos objections, n'est-ce pas? Nous, on a répondu par une dizaine de pages pour contredire les contradictions qu'ils avaient faites. Et puis on a assez là. Ça ne change pas. Eux, ils ne changent pas, nous, on ne change pas. C'est tout. Ils ont réaffirmé leurs erreurs. Dans la réponse qu'ils nous ont faite, ils réaffirment leurs erreurs avec encore plus explicitement. Invraisemblable. Ils ne veulent rien. Rien changer à leurs idées libérales. Allez dire explicitement, on se demande comment c'est possible que des gens qui se disent avoir un peu de théologie puissent dire que l'État, la société civile, est inapte à connaître la véritable religion. Ce sont des hommes, ce sont des bêtes qui sont à la tête de la société civile ou ce sont des hommes? S'ils sont des hommes, si les hommes sont capables de connaître la vraie religion, l'État de la société civile est bien capable de connaître la vraie religion. Enfin, c'est insensé. Mais ça, c'est écrit noir sur blanc. De façon à dire aux États, vous n'avez rien à voir dans la question religieuse. Rien. Ça ne vous regarde pas parce que vous êtes incapable de connaître la véritable religion de la fausse religion. Des fausses religions. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas moyen de discuter avec des gens, ça c'est absolument impossible. Alors, on sent très bien, par exemple, un tout petit exemple qui n'a été significatif, à tel point que j'avais réuni après mes deux confrères, l'abbé Titienne Malraux et l'abbé Patrice au moment des discussions. Le cardinal nous dit tout bonnement, comme ça, au cours de conversations, justement, sur le cours des questions de pratiques, là, des conditions liées, des personnes liées à la fraternité, puis de la commission romaine, tout ça, enfin, alors, des choses plus pratiques. Il nous dit, mais par exemple, vous voyez, quand, si vous avez, s'il y a un accord, eh bien, il est évident que, pour des paroisses comme celle de Saint-Nicolas du Chardonnay, où, vous êtes illégitimement et qui appartiennent au diocèse, c'est évident, ça appartient au cardinal le sujet. Il est clair qu'il faudra que vous disiez une messe nouvelle dans cette église. Alors, vous vous rendez compte? Ah bah, allez la dire, vous allez voir comment il va revenir, celui qui. S'il sort vivant de l'Église, il a de la chance. Comme ça, tout simplement, tout naïvement, il dit ça, mais c'est sûr. Il dit parce qu'il y a des paroissiens, c'est une église paroissiale. Les paroissiens qui veulent la messe nouvelle ont le droit d'avoir la messe nouvelle dans leur paroisse. Donc, vous serez obligé, si vous voulez garder cette église, de dire une messe nouvelle pour les paroissiens qui veulent la messe nouvelle dans cette église, dans cette paroisse. Vous allez trouver ça tout naturel, pas de problème. Toujours, parce que pour eux, messe nouvelle, messe ancienne, tout ça, il faut que nous arrivions à comprendre que tout ça, ce sont des détails, les uns préfèrent celle-ci, les autres préfèrent celle-là, mais ça n'a pas d'importance, il faut savoir accepter. Ils ne peuvent pas admettre dans leur esprit que nous jetions l'anathème, je dirais, sur tout ce qu'ils font. Enfin, c'est la messe que je dis tous les jours, dit le cardinal. Et puis c'est la messe que le pape dit aussi. Alors, vous allez détourner les fidèles d'aller à ces messes? Alors, ça, c'est pas moi qui ai répondu, c'est l'abbé Laroche qui a dit, oui, cette messe est protestante. Il a dit, nous, oh, ben alors, il a dit, si c'est comme ça que vous prenez les choses, alors, ben, la commission va avoir du travail, qu'il a dit. Parce que pour eux, la commission, le travail de la commission, ça va être justement de réaliser la réconciliation. Ils le mettent bien, la commission. Elle aura en outre la fonction de vigilance et d'appui pour consolider l'œuvre de la réconciliation et régler les questions relatives aux communautés religieuses ayant un lien juridique ou moral avec la fraternité. Alors, pour les sœurs, les pères, les prêtres, donc tous ceux qui sont liés moralement avec la fraternité, tout cela devrait normalement, les congrégations religieuses devraient retrouver un lien avec leurs congrégations religieuses, franciscains, dominicains, capucins, bénédictins, devraient retrouver un lien avec leurs congrégations religieuses tout en ayant un statut un peu spécial. Alors, évidemment, c'est là aussi, on se heurte à des problèmes pratiques impossibles. Alors, quand j'ai dit ça aux pères et aux religieuses réunies à Notre-Dame des Pointés, j'ai voulu les réunir parce que, ben, j'ai sur le cœur de me dire, c'est très bien, on signe un accord comme ça. Et puis après, cette commission composée de 7 membres, dont le président, le vice-président, et 3 membres sont romains, et seulement 2 de la tradition, Alors, vous voyez, 5-2, dont le président et le vice-président, pour leur pauvre homme, on va être absolument coiffé, et toutes les décisions qui vont être prises vont toujours être prises en faveur d'un accord avec les nouveautés, tout ça, d'un accord avec les évêques. Ce sera toujours les évêques qui vont avoir raison. C'est ce qu'ils ont toujours fait depuis le Concile. Depuis le Concile, toutes les plaintes qui ont été faites par tous les prêtres traditionalistes qui se sont adressés à Rome, on les a toujours renvoyées à leurs évêques. Ah, obéissez à vos évêques, obéissez à vos évêques. Même Fongongo, vous voyez, Fongongo qui aurait pourtant tous les droits d'avoir la messe ancienne, puisqu'ils avaient repris la messe nouvelle pendant 15 ans, mais ils auraient bien eu le droit d'avoir la messe nouvelle, d'après la messe ancienne, d'après l'indulte. Eh bien, on les a renvoyés toujours à l'évêque. Il est allé voir Don Fonjo est allé voir le pape, est allé voir le préfet, Monseigneur Maillère, le préfet de la congrégation du culte. Et tous sont renvoyés à l'archevêque. L'archevêque a dit, pas de question, la messe de communauté, la messe conventuelle, c'est la messe nouvelle. Pas de question. Rien à faire. Rien à faire. C'est absolument, c'est un rouleau compresseur. Il n'y a pas espérer. C'est effrayant. Et la première chose que Don Augustin a dû faire, messe nouvelle pour la messe conventuelle. Rien à faire. Alors, c'est à ça qu'ils veulent nous amener. Alors, les congrégations religieuses reliées à leur congrégation avec un statut spécial, le statut spécial étant très provisoire durant quelques années, puis après on leur dit, vous maintenant c'est fini, rentrez dans vos congrégations, c'est terminé, on n'en parle plus, comme ils ont fait pour nos séminaristes, tous les séminaristes qui nous ont quittés, qui sont allés à Rome, on leur a promis la messe ancienne, la tradition, vous aurez tout ce que vous voulez, etc., ne craignez pas, on va bien vous garder dans la tradition. Au bout de 4-5 mois, on commençait déjà à leur dire, mais enfin, il faut quand même pas rester absolument figé dans la tradition. Enfin, puis on commence au bout d'un certain temps, puis après, au bout d'un an, même pas un an, cette fois-ci, ça n'a même pas duré un an, là, et, allez, rentrez dans vos séminaires, puis c'est terminé, vos séminaires respectifs, c'est terminé. Et ça, alors c'est ce qu'a dit d'ailleurs le cardinal à l'ambassade de France, où l'ambassadeur nous a envoyé un petit mot pour nous dire, voilà la conversation que j'ai eue avec le cardinal. La commission romaine va être très provisoire. Alors, les congrégations religieuses, j'ai ici, je crois, la petite note, je vais pouvoir vous la lire. Je me perds dans ces papiers, il y en a tellement. Il y a tellement fait de lettres, des lettres, des lettres. Voilà. Un accord est prêt à être soumis à l'approbation du pape et on attend les réactions des présidents des conférences épiscopales. Il faut l'acceptation publique du Concile Vatican II par Mgr Lefebvre. Mais peut attendre. C'est pas pour aujourd'hui, je vous assure. Enfin, comme j'en ai plus longtemps à vivre, alors, ça sera peut-être. Il n'attendra peut-être pas longtemps. Statut de la fraternité. Une association de vie sacerdotale sans évêque à sa tête. Ils ne voulaient pas d'évêque, ils ne voulaient pas. Ils ont fini par l'accorder par la pression. Ils ont dit, on ne signe pas si on n'a pas l'évêque, etc. Alors, ils ont fini. Mais ils nous ont répété tout le temps, mais vous n'avez pas besoin d'évêque. Une fois que vous serez reconnu officiellement par Rome comme société sacerdotale de droit pontifical, vous pourrez demander à tous les évêques du monde de faire les ordinations, les confirmations, il n'y a pas de problème. Tous les évêques du monde sont à votre disposition. Quelle prédication ils vont venir faire? Alors, eux, ils ne veulent pas d'évêques, n'est-ce pas? Et même s'ils ont dit le 15 août, ils ont fini par accepter que ce soit le 15 août, que cet évêque-là éventuellement soit consacré. C'est pas sûr qu'on l'aurait eu le 15 août encore, c'est mis sur le papier, mais c'est autre chose de l'avoir en réalité. Parce que dans les dernières lettres, il me demandait encore d'envoyer encore d'autres noms. J'avais déjà envoyé des candidats au début du mois de mai. Donc 2 mois avant le 30 juin, ils avaient tout le temps pour choisir un parmi ces 3 pour me donner le mandat pour faire la consécration épiscopale. Non. Alors maintenant, il aurait fallu que j'envoie encore je ne sais pas combien. Non. Pour pouvoir, c'est mis dans la lettre, pouvoir choisir, que Rome puisse choisir un évêque qui ait le profil de je ne sais pas quoi, du numéro tant du protocole. J'ai cherché dans le protocole, j'ai pas vu le profil de l'évêque. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais je comprends très bien. Ils veulent que je leur donne une vingtaine de noms, façon à essayer de trouver parmi eux, prendre des renseignements, puis savoir s'il n'y en a pas un quand même qui serait éventuellement plus conciliant, etc., qui pourrait éventuellement avoir de l'influence sur ses confrères, tout ça, puis pourra amener à Rome plus facilement, au concile, ses confrères. C'est clair. Alors, à Rome, la création d'un organisme très provisoire, chargé, en liaison avec les épiscopats nationaux, de prévoir la réinsertion des prêtres d'Écône. Oh oui, c'est clair. La réinsertion des prêtres d'Écône dans les diocèses. Non, leurs intentions n'ont pas changé parce que leurs principes n'ont pas changé. Tant que leurs principes n'auront pas changé, ils auront toujours, évidemment. Pour eux, comme le disait le cardinal, à satiété, il répétait toujours la même chose. Mais monseigneur, il n'y a qu'une église. Il ne faut pas faire d'église parallèle. Vous savez, qui fait une église parallèle? Bon, nous. Nous, on continue ce que l'église a toujours fait pendant 19 siècles. On continue. C'est pas nous qui faisons une église parallèle. C'est ceux qui font une autre église qui font une église parallèle. Bon, nous. Rien à faire. Mais alors pour eux, leur signification, c'est toujours ça, pas d'église, il n'y a qu'une église, l'église Vatican II. Ah oui, c'est ça, c'est l'église Vatican II. Alors il faut que tout le monde se rallie à l'église Vatican II. Comme il a dit encore dans un interview qui a été fait par un journal allemand, et la traduction nous a été envoyée par M. de Savantem, il y a quelques jours, ça, dans Der Welt, quelque chose comme ça, c'est pas un journal. C'est suisse-allemand ou si c'est allemand, je ne sais pas exactement, enfin peu importe. Et alors il le disait, n'est-ce pas, il faisait une petite description des suites du concile. Après tous les conciles, il y a toujours eu des difficultés dans l'Église. Alors il y en a qui abusent des textes du concile, bien sûr. Alors ceux-là, bon, il faut les modérer. Et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas s'adapter au concile. Ils refusent de s'adapter au concile, ils restent dans le passé. Alors parmi eux, bien, il y a les apparitionnistes, bon, les apparitionnistes pour lui. Ensuite, bon, ceux-là, bon, on n'en tient pas grand compte, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas dangereux. Enfin, bon. Ensuite, il y a les cédévacantistes, oh, ce sont des petits groupes insignifiants, enfin, ce n'est pas à grande importance non plus. Mais alors, il y a le groupe de Mgr Lefebvre qui n'est ni apparitionniste ni cédévacantiste, et il faut reconnaître qu'ils ont une organisation assez importante, enfin, avec 200 prêtres, avec 500 lieux de culte, avec dans le monde entier, enfin, et puis avec des congrégations religieuses qui les entourent, et tout ça. Enfin, il y a certainement là quelque chose de sérieux. Mais ils ont le tort d'être figés, n'est-ce pas, dans le passé, d'une manière qui est absolument inadmissible, car il est inconcevable et inadmissible qu'il y ait des groupes post-conciliens, pas après le concile, qui ne s'intègrent pas dans un épiscopat et dans les idées, n'est-ce pas, du concile. Qui prévalent actuellement dans le monde, n'est-ce pas, dans ce qui est, disons, ce qui est cru aujourd'hui par le monde entier, n'est-ce pas. Et c'est toujours la même chose, aujourd'hui, n'est-ce pas. Alors, ils nous ont figés dans le passé, alors il est inadmissible qu'on ne fusionne pas, je dirais, avec ce que l'Église aujourd'hui. C'est toujours le même principe. Parce que pour eux, il n'y a qu'une église, c'est l'église Vatican II maintenant, c'est la Pentecôte qui a été faite, la grande Pentecôte de Vatican II. Alors quand on lui dit, mais enfin, voyez les résultats, voyez les fruits, vous voyez pas la destruction de l'église, ça, que le pape Paul VI a parlé, même, tout ça, non. Ah oui, mais ce sont les abus. Nous sommes d'accord, bien sûr, il y a des abus, c'est simple. C'est pas le concile, c'est pas les réformes. Non, non, pas ça. Il y a toujours absolument des réponses à tout. Il n'y a pas moyen de s'entendre. Alors j'ai écrit au pape et écrit aussi au cardinal Ratzinger, donc pour dire que j'étais vraiment un peu inquiet parce que le principe que j'avais suivi au début dans les colloques n'était pas pour moi observé, enfin il n'était pas mis en application. Alors voici ce que j'écrivais au Saint-Père le 20 mai. Très Saint-Père, tandis qu'une espérance se levait au sujet d'une solution possible au sujet du problème de la fraternité, après la signature du protocole, voici qu'une grave difficulté surgit à l'occasion de l'épiscopat accordé à la fraternité pour me succéder dans ma fonction épiscopale. Il apparaît clairement que cet épiscopat est pour le Saint-Siège une source d'appréhension et de soucis pour les motifs suivants. En premier lieu, cet épiscopat est superflu. Après la reconnaissance légale de la fraternité comme société de droit pontifical, le supérieur général pouvant donner des lettres dimissoriales à un évêque de son choix. En second lieu, cet épiscopat peut apparaître comme une certaine réprobation des évêques actuellement en fonction et indisposera les évêques à l'égard du Saint-Siège. Enfin, cet épiscopat peut éventuellement créer des difficultés dans les diocèses à l'occasion de l'apostolat auprès des fidèles. Ce sont sans doute ces appréhensions qui provoquent des délais, des réponses évasives de la part du Saint-Siège depuis plus d'un an et qui m'obligent moralement à mettre un terme à cette attente après avoir insisté à plusieurs reprises sur l'urgente nécessité pour la continuation et le développement de l'œuvre d'avoir plusieurs évêques. Le 30 juin m'apparaît désormais comme la date ultime pour réaliser cette succession. La Providence semble avoir préparé cette date, les accords sont signés, les noms des candidats sont proposés. Si le cardinal Ratzinger a l'emploi du temps trop chargé pour préparer les mandats, le cardinal Gagnon pourrait peut-être s'en charger. Très Saint-Père, veuillez mettre un terme à ce douloureux problème des prêtres, des fidèles et de votre serviteur qui, en gardant la tradition, n'ont eu d'autre désir que de servir l'Église, le pape et de sauver leurs âmes. Permettez que j'ajoute quelques considérations sur le renouveau de l'Église obtenu par le moyen de la fraternité et l'épiscopat qui lui serait accordé. La presse, en rapportant les incidents de Vienne en Autriche et de Coire en Suisse, à propos des nominations épiscopales, fait allusion à un changement d'orientation de la part du Saint-Siège dans le choix des évêques. C'est un heureux présage, mais les réactions manifestent que ces évêques auront d'énormes difficultés dans la réalisation de leur apostolat et qu'ils seront obligés de manifester leur adhésion à l'esprit moderne par l'œcuménisme, le charismatisme, afin de calmer les esprits. Leurs séminaires, même s'ils observent une certaine discipline et une plus grande piété, seront imbus de cet esprit moderne et contribueront difficilement au vrai renouveau de l'Église. Ce renouveau ne peut désormais se réaliser que par des évêques libres de faire revivre la foi et la vertu chrétienne par les moyens que notre Seigneur a confiés à son Église pour la sanctification des prêtres et des fidèles. Seul un milieu entièrement dégagé des erreurs modernes et des mœurs modernes peut permettre un renouveau. Ce milieu, c'est le milieu qu'ont visité le cardinal Gagnon et Mgr Perle, milieu formé de familles profondément chrétiennes ayant nombreux enfants et d'où proviennent de nombreuses et excellentes vocations. Le développement de ce milieu rénové, encouragé par vos décisions, Très Saint-Père, restaurera les diocèses par les contacts avec les évêques et le clergé. Certains évêques nous confieront la formation de leurs séminaristes et ainsi, avec la grâce de Dieu, l'Église retrouvera une nouvelle jeunesse et transformera la société païenne en société chrétienne. Vous comprendrez facilement pourquoi un seul évêque ne saurait suffire dans un champ d'apostolat aussi vaste, etc. Alors, ensuite, le 24 mai, j'écrivais au cardinal, il me semble nécessaire de préciser ce que je vous écrivais le 6 mai dernier. À la réflexion, il nous apparaît clairement que le but des colloques et de la réconciliation est de nous réintégrer dans l'Église conciliaire, l'unique Église à laquelle vous faisiez allusion dans vos entretiens. Nous pensions que vous nous donneriez les moyens de continuer et de développer les œuvres de la tradition, spécialement en nous donnant quelques coadjuteurs, au moins trois, et en nous donnant aussi dans l'organisme romain une majorité à la tradition. Or, sur ces deux points qui nous semblent nécessaires pour maintenir nos œuvres en dehors de toute influence progressiste et conciliaire, nous n'avons pas satisfaction. C'est pourquoi, à notre grand regret, nous nous voyons obligés de vous demander qu'avant la date du 1er juin, vous nous indiquiez clairement quelles sont les intentions du Saint-Siège sur ces deux points. Consécration de 3 évêques postulés pour le 30 juin et majorité des membres de la tradition dans la commission romaine. Sans réponse sur ces requêtes, je procéderai à la publication des noms des candidats à l'épiscopat que je consacrerai le 30 juin avec le concours de son Excellence Monseigneur de Castromayer. Ma santé et les nécessités apostoliques pour la croissance de nos œuvres ne me permettent plus de délais supplémentaires. Alors, réponse du cardinal. Après avoir été reçu en audience par le Saint-Père, comme j'avais indiqué, concernant le premier point, le Saint-Père juge qu'il convient de s'en tenir aux principes fixés dans le point 11.2 du protocole, c'est-à-dire pas de changement pour les membres de la commission. Pour ce qui regarde le second point, le Saint-Père confirme ce que je vous ai dit de sa part, à savoir qu'il est disposé à nommer un évêque membre de la fraternité au sens du point 11, etc. Je ne sais pas ce qu'ils ont là derrière. Ils trouvent toujours un sens dans le protocole que moi je ne trouve pas. Et à faire accélérer le processus habituel de nomination de manière à ce que la consécration puisse avoir lieu pour la clôture de l'année mariale le 15 août prochain. Alors donc, ils acceptaient de fixer la date, de fixer une date, mais toujours un et pas de majorité dans le Conseil de Rome. Donc pratiquement, c'était uniquement sur la question de la date qu'il changeait, mais la réponse était négative sur les deux points que j'avais demandé, les 3 évêques et la majorité des membres dans le Conseil. Ce qui me semblait, et ce qui me semble toujours, une condition indispensable pour maintenir la tradition dans nos milieux. Et surtout s'il y avait un arrangement, encore plus. Parce que, envahi par quantité de monde qui va venir, ah, maintenant, bon, vous avez la tradition, c'est la tradition, est reconnue par Rome, alors on va venir chez vous. Mais quantité de gens qui vont garder leur esprit moderne, qui vont garder leur esprit libéral, et qui viendront chez nous, parce que ça leur fait plaisir d'avoir de temps en temps une cérémonie traditionnelle, d'avoir des contacts avec les traditionnalistes, etc. Bon. Mais, et cela va être très dangereux pour nos milieux. Si nous sommes envahis de ce monde-là, voyez, que va devenir la tradition? Petit à petit, il va y avoir cette espèce d'osmose qui va se produire et une espèce de consensus comme ça. Oh, après tout, la nouvelle messe, c'est pas si mal que ça. C'est pas si bon, il ne faut pas exagérer. Puis tout doucement, on va finir par ne plus voir la distinction entre le libéralisme et la tradition, et tout ça va se faire très très dangereux, vous voyez. Il y a là, vous savez, quand on est contaminé par les idées libérales, mais on contamine les autres. C'est fatal, c'est comme une véritable maladie contagieuse. Alors, c'est dangereux, très dangereux. Tandis que pour le moment, nous sommes bien dans la tradition, dans la fraternité, nous tenons aussi fermement que possible. Mais si nous n'avons pas les moyens, encore une fois, de nous défendre, soit à Rome, soit par les évêques que nous devons avoir pour nous protéger, pour qu'ils soient des évêques qui ont les mêmes pensées que nous, qui prêcheront comme nous prêchons, qui ont les mêmes idées que nous, et qui maintiendront par conséquent la foi catholique dans nos milieux, nous sommes perdus. Nous serons perdus. Nous ne pourrons plus tenir. Pas plus possible. C'est pourquoi, ici aussi, mes chers amis, s'il y en a parmi vous qui vraiment ne sont pas d'accord avec, par exemple, avec la consécration des évêques, ou, je ne sais pas, qui ne sont pas d'accord pour certains problèmes, comme par exemple celui justement de refuser absolument la nouvelle messe, ou n'est-ce pas, par exemple, au sujet de la liberté religieuse, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, qui estiment que la liberté religieuse, c'est pas mal, et que c'est une erreur de combattre la liberté religieuse, etc. Mais il ne faut pas qu'ils restent avec nous. C'est une contamination, ce que vous voulez. C'est comme des sujets contaminés. Si des sujets commencent à être contaminés au milieu de nous, ben, tout doucement, c'est un, c'est deux, c'est trois, c'est quatre, c'est cinq, et puis tout doucement, les idées, on commence à mollir dans le combat. S'il y a des soldats qui commencent à ne plus avoir le courage de combattre, puis ils commencent à se mettre un petit peu à l'écart en disant « Oh, Je sais pas si on peut y aller, on y va, on sait pas ce qu'on fait. Alors, c'est fini. Alors, sur les autres, voyez les autres, l'influence que ça fait sur les autres. Les mecs, c'est ça, on a l'impression qu'il y en a toujours qui restent en arrière, là, qui veulent pas combattre, n'est-ce pas? Alors, ça démoralise les combattants. Eh oui. Or, notre combat, mes chers amis, c'est un combat qui n'est pas difficile. Nous voulons le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'ai dit au cardinal le 14 juillet, après, justement, lorsqu'il m'avait demandé de venir, que je lui ai demandé d'avoir l'autorisation de faire les évêques, après avoir dit qu'on en ferait, n'est-ce pas? Je lui ai dit, éminence, comment voulez-vous que nous nous entendions? Vous êtes contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, on est pour. Alors, vous faites tout pour empêcher le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, on fait tout pour, au contraire, faire régner notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les sociétés, dans les âmes, dans les familles, dans les séminaires, dans toutes nos œuvres. On veut que notre Seigneur Jésus-Christ règne. C'est lui, notre roi. On n'a pas d'autre pensée ni d'autre idée. C'est tout, c'est ça. C'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que l'Église a toujours fait, c'est ce que notre Seigneur a demandé qu'on fasse. C'est ça, ce que vous voulez. Alors maintenant, s'il faut commencer à dire, ah, le Seigneur peut régner un petit peu là, mais dans les familles, en privé, mais dans la société, non, c'est pas possible, non, faut pas qu'il règne dans la société, non. Et puis, enfin, et dans les instances internationales, non, pas de place pour notre Seigneur, n'est-ce pas? À Assise, pas de place pour notre Seigneur, pas de place pour la Sainte Vierge. Vous savez qu'il y a un petit groupe de pèlerins qui ont voulu mener une statue de Fatima à Assise. Ils ont été chassés. Ils étaient venus, je crois, sans mauvaise intention, en se disant, bah, puisqu'on réunit tout le monde, on peut bien mettre une statue de la Sainte Vierge aussi. Ils ont été chassés. Pas de statue de la Sainte Fatima au milieu de tout ce... C'est un broglio de religion, et de, c'est abominable. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Et tout est là, mes chers amis. Vous cherchez une solution. Il y en a qui cherchent une solution, pas au point de vue canonique, mais Monseigneur, attention, vous allez être schismatique, mais Monseigneur, attention, vous allez être excommunié, mais Monseigneur, attention, l'excommunication, c'est ceci, c'est cela, mais Monseigneur... Oui ou non, vous êtes pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui justifie notre combat. Les autres, ils n'en veulent pas. Ils nous frappent. Ils ont l'autorité. Ils se servent des munitions qu'ils ont pour nous tirer dessus. Eh bien, qu'ils servent des munitions pour nous tirer dessus. Mais ce sont des munitions qui viennent de ceux qui sont contre le règne de notre Seigneur. C'est pour empêcher le règne de notre Seigneur de s'étendre qu'ils veulent notre disparition. Eh oui. C'est ça le principe du libéralisme. Ah oui. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, toutes les solutions viennent de là. Et s'il m'est, à mon avis, bien sûr, valide, parce qu'il n'est pas question d'invalide, il ne peut pas y avoir une validité de la consécration épiscopale, étant donné que bon, c'est un sacrement, qu'il n'y a pas... De même que j'ai consacré 3 évêques avant, bien, quand je les ai consacrés, je ne leur donnais pas juridiction non plus. Ce n'est pas moi qui donne juridiction aux évêques. C'était le pape. On sait quand je leur donnais le sacrement, avec le pouvoir in potentia et pas in actu de la juridiction. C'était le pape qui donne la juridiction in actu. Mais quand ces évêques, c'est la même chose. Je vais les faire comme j'ai fait les 3 évêques que j'ai fait précédemment, exactement de la même façon. Donc ils auront aussi la juridiction in potentia, mais peut-être pas, il n'est pas in actu parce que moi, je suis pas pape. On ne veut pas remplacer le pape, c'est tout. Mais ils auront la juridiction qu'ils ont comme prêtres, là où ils sont, dans leur fonction, ben, comme prêtres qu'ils ont maintenant, ils ont une juridiction, comme tous les prêtres de la fraternité, par les lois exceptionnelles du droit, ben, ils les auront aussi, cette juridiction, n'est-ce pas? Alors, faut pas. Ensuite, l'objection, mais c'est le pape qui doit nommer les évêques. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça, c'est pas le pape. Le pape a le pouvoir sur les évêques, ça c'est sûr, c'est évident. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Paix mes brebis, c'est-à-dire les évêques. C'est clair que c'est le pape qui a l'autorité complète sur les évêques, et par conséquent, qu'on ne peut pas faire d'évêque contre le Saint-Siège, contre la volonté du Saint-Siège. Or, pour nous, il n'est pas question de faire la volonté des évêques contre le Saint-Siège. Nous faisons des évêques contre la volonté d'un pape qui est moderniste. Ah, mais ça... Il est moderniste, il est moderniste. Alors encore, maintenant, étant donné le protocole qu'il a signé, qu'ils ont signé, eh bien, ils nous accordent un évêque. Donc, ils ne sont pas contre le fait qu'il y ait un évêque dans la fraternité. Ils ne sont pas contre. Donc, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Ce n'est pas le nombre qui importe. Mais c'est le principe lui-même est accepté par Rome, maintenant. D'une certaine manière, pour ceux qui ont un petit peu de scrupules, je dirais, à ce sujet-là, eh bien, ils ont satisfaction par le fait que le pape a accepté le principe de nous donner un évêque. Et donc, ils ne voient pas d'inconvénient majeur à ce que la fraternité ait des évêques. Mais si le pouvoir, évidemment, si le droit qu'a le pape est un droit de droit divin, c'est sûr, c'est notre Seigneur qui lui a donné à Saint-Pierre, mais l'application de ce droit historiquement est de droit ecclésiastique, et ça c'était très différent. Les papes ont appliqué ce pouvoir divin qu'ils ont reçu de manière très différente, suivant les siècles, suivant les lieux, et encore maintenant... Ce pouvoir de Pierre est fait d'une manière très différente. Les orientaux, par exemple les patriarches orientaux, ont des droits presque absolus, enfin de choisir les évêques, de faire les évêques. Le Rome ne fait qu'entériner ce qu'ont fait les patriarches orientaux. Ils ne connaissent même pas les noms. Enfin, on envoie les noms après à Rome, mais c'est accepté à l'avance par Rome. Donc, ça c'était un droit ecclésiastique qui est différent suivant les contrées, les régions. Alors, quand il s'agit de droit ecclésiastique, il peut toujours y avoir des circonstances exceptionnelles qui font que l'application de ce droit irait contre le bien de l'Église, contre le droit même divin, contre le bien de l'Église. C'est possible, puisque alors c'est un droit qui est en la main des hommes quand même, des hommes bon, inspirés par Dieu. Des hommes d'église, c'est entendu, mais enfin qui peuvent se servir de ce droit ecclésiastique pour une fin qui est contraire à celle pour laquelle le droit leur a été donné. C'est le cas avec toutes les lois mauvaises qui sont actuellement dans le droit canon, dans le nouveau droit canon. Le pape se sert de son pouvoir pour instaurer des lois dans le nouveau droit canon qui sont contraires au bien de l'Église, et contraires même à la foi de l'Église. La définition du mariage, qui est mauvaise. Les deux pouvoirs suprêmes dans l'Église, qui est contraire à la foi catholique. La définition de l'Église, qui est contraire à la foi catholique. Tout ça est dans le droit canon. Alors, il emploie son pouvoir de faire des lois dans l'Église contre le bien de l'Église. Alors, est-ce que parce qu'il emploie ce pouvoir, on doit se soumettre? On ne va pas se soumettre à ce qui est mauvais. Ce sont des choses élémentaires. Enfin, c'est comme un père de famille qui donne de mauvais conseils ou de mauvais ordres à ses enfants. Les enfants ne doivent pas obéir, c'est clair. Ils doivent obéir quand c'est bien, mais pas quand c'est mal. Alors, je pense que toutes ces objections se résolvent facilement lorsqu'on est bien les buts, n'est-ce pas, les buts pour lesquels le pape doit travailler lui-même. Il est au service de la foi. La foi est avant l'autorité. L'obéissance à la foi prime l'obéissance à l'autorité. Pourquoi? Parce que l'autorité est au service de la foi. Alors, il faut d'abord croire et tout faire pour garder la foi et tout faire pour maintenir sa foi. C'est ce qu'ont fait les martyrs. C'est l'exemple de tous les martyrs, c'est ça. Ils ont agit pour Dieu, parce que la foi, c'est une vertu théologale qui nous relie directement à Dieu. Ils ont préféré être reliés directement à Dieu et maintenir leur lien à Dieu, plutôt que de maintenir le lien à une autorité qui voulait leur faire abandonner cette foi, ce lien avec Dieu. Et même quand il s'agissait d'autorité ecclésiastique, Sainte Jeanne d'Arc a désobéi à des évêques pour garder leur lien avec le bon Dieu. C'est la même chose. Toujours l'autorité est faite pour le soutien de la foi et non pas inversement. C'est ça qui nous... Et si Rome était comme autrefois, il n'y aurait pas de problème. Bien sûr, du temps du cher pape Pie XII, que j'ai si bien connu, ça, n'est-ce pas, et puis tous ces papes, mon Dieu, quand je pense à ce temps-là, je vous assure, Je me dis, bien mon Dieu, comment se fait-il que nous soyons arrivés au temps où nous sommes arrivés maintenant? Quand on pense à ça, on n'avait jamais de problème de ce côté-là, jamais de problème de foi. Il pouvait y avoir des petits problèmes de rien du tout, insignifiants, n'est-ce pas, Jésus? Mais jamais des problèmes de la foi. Et depuis ce concile, depuis les années 60, c'est une situation inimaginable, mais que nous sommes obligés de constater, de voir. Il ne faut pas minimiser, il ne faut pas dire, mais le pape, qu'est-ce que vous voulez, le pape, il est ce qu'il est, et il doit faire, il est, c'est une créature du bon Dieu, qui doit servir le bon Dieu, qui doit servir la foi de l'Église, et non pas aller à l'encontre. Voilà, mes chers amis, je suis content d'être venu vous parler, vous encourager et souhaiter que vous compreniez bien, que vous entriez bien, voyez, dans cette perspective. C'est tellement beau, je trouve, de travailler au règne de notre Seigneur Jésus-Christ, de ne vivre que pour ça, n'avoir pas d'autres préoccupations, faire régner notre Seigneur dans les âmes, dans la société, dans les familles, partout, notre Seigneur Jésus-Christ, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, la messe est non seulement le symbole de cela, mais la cause aussi des grâces du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout converge vers le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'ancienne messe, dans la vraie messe, n'est-ce pas? Tout converge vers ça, vers le règne par sa croix. Regnavit aligno Deus, Dieu règne par sa croix. Et il règne par le Saint-Sacrifice de la Mère. On est tous tendus vers notre Seigneur. La messe nous tend vers la croix. Quand je serai monté sur la croix, le Seigneur, je retirerai tout à moi, par son règne. Voilà. Alors, la nouvelle messe, voyez, détruit ce sens vers notre Seigneur, vers la croix de notre Seigneur. Elle est horizontale. Ça devient une réunion entre hommes, entre personne, entre fidèles, mais c'est plus cette orientation vers le ciel, vers Dieu, vers notre Seigneur, vers la voie, la vie, n'est-ce pas, la vérité, c'est plus, et de toute la société, même de tout le monde entier, c'est magnifique, le sacrifice de la messe, c'est quelque chose d'irremplaçable, n'est-ce pas, c'est vraiment notre drapeau, ben oui, notre drapeau, mais eux font de la nouvelle messe leur drapeau, eux. Un drapeau révolutionnaire, un vrai drapeau révolutionnaire. Et c'est pourquoi ils veulent nous l'imposer à tout prix, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas que nous soyons opposés. Alors vous avez peut-être me demandé, mais Monseigneur, alors, est-ce qu'on pourrait savoir quels sont les évêques? Si vous téléphoniez pas tout de suite à la presse, je vous le dirai. Mais à peine je vais vous le dire, il va y avoir un téléphone là-bas, tout de suite, allô, allô, un tel. Et puis demain, la presse me tord. Ça y est, oh mon Dieu. Alors, un peu de calme, mais j'ai dit aux séminaristes d'ailleurs, écoutez, je ne vous le dirai pas, mais vous en apercevrez bien parce qu'ils vont arriver dimanche. À Écône, alors vous les verrez tous les quatre, ils seront là. Alors vous aurez vite fait de les reconnaître. Comme vous ne serez pas à Écône, mais il y aura bien vos confrères d'Écône qui aura vite fait. qui aura vite fait de vous les téléphoner. En tout cas, j'espère que. Enfin, qu'est-ce que vous voulez. Ils se dévouent, c'est très beau de leur part, de ceux qui ont accepté de malgré la situation difficile dans laquelle ils vont se trouver, c'est vrai, c'est pénible d'être apparemment contre Rome, apparemment contre le pape. Il n'y a rien d'aussi pénible que ça. Quand on pense qu'on est catholique à 100% et qu'on est papiste, je dirais, plus que le pape lui-même bientôt. Eh bien, c'est pénible, c'est déchirant. Si vous voulez, il faut accepter un vrai martyr, mais il faut accepter ce martyr, si vous voulez, pour la défense de notre foi, tant pis. Parce qu'ils seront certainement insultés, ils seront certainement méprisés, ils seront comme rejetés, etc. Encore une fois, pour que notre Seigneur Jésus-Christ règne, ben, il faut savoir accepter. On n'a pas encore donné notre sang, comme l'ont fait tant d'autres. Donnons au moins notre vie.